Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, la SLA, ou sclérose latérale amyotrophique, encore appelée maladie de Charcot. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Couratier. Professeur Couratier, bonjour.
Bonjour.
Professeur Couratier, vous êtes chef du service de neurologie du CHU de Limoges, coordonnateur du centre de référence sur la sclérose latérale amyotrophique, et vous êtes également l'animateur national de la filière FILSAN, la filière nationale de santé maladies rares, sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, professeur Couratier. Qu'appelle-t-on SLA, sclérose latérale amyotrophique ?
Alors, la sclérose latérale amyotrophique, elle porte plusieurs noms. En France, on a l'habitude de l'appeler maladie de Charcot, mais on est probablement les seuls au monde à l'appeler comme ça. Les Américains peuvent aussi l'appeler maladie de Lou Gehrig, en faisant référence à un joueur de baseball qui est décédé en 1941 et qui était très connu aux États-Unis. Bon, néanmoins, malgré le fait qu'elle puisse avoir plusieurs noms, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une pathologie neuromusculaire progressive et fatale qui va être caractérisée sur le plan clinique par les conséquences d'une dégénérescence progressive des neurones moteurs. Et ces neurones, comme vous le savez, vont commander les fonctions motrices comme la marche, l'utilisation des membres supérieurs, la parole, la déglutition et la respiration. Et c'est cette perte des motoneurones qui va entraîner une atrophie musculaire et la paralysie progressive des patients. Alors, pourquoi on l'appelle sclérose latérale amyotrophique ? C'est probablement l'intérêt peut-être de faire référence à Jean-Martin Charcot, qui était neurologue à la Salpêtrière et qui a été le premier à la décrire en 1865. Alors, les trois termes, sclérose. Alors, sclérose, ça veut dire qu'il y a une dégénérescence des cellules motrices, donc des motoneurones, qui va laisser progressivement place à un tissu cicatriciel. Latéral, pourquoi on parle de latéral ? C'est le fait qu'il existe une atteinte des fibres qui proviennent du neurone moteur central qui est situé dans le cortex moteur du cerveau et qui va cheminer dans la partie latérale de la moelle. Et enfin, amyotrophique, la dégénérescence des motoneurones va entraîner de manière progressive une fonte musculaire. Alors, on comprend bien, d'après cette description, qu'il y a deux types de motoneurones, et c'est un peu la spécificité de la maladie, puisque les deux motoneurones vont être impactés par la pathologie. Les neurones moteurs centraux sont situés dans le cortex moteur primaire, dans le cerveau, et c'est eux qui vont transmettre les ordres de contraction jusqu'au noyau moteur bulbaire ou bien les motoneurones périphériques situés dans la moelle épinière. Et puis les motoneurones dits périphériques, eux, ils sont situés dans la partie antérieure, ce qu'on appelle la corne antérieure de la moelle, et eux, ils transmettent l'information motrice aux muscles. Et la spécificité de la dégénérescence de ces deux types de motoneurones au cours de la pathologie, va donc entraîner la perte progressive de la transmission d'informations entre le cerveau et les muscles volontaires qui, du fait de leur absence de sollicitation, vont progressivement s'atrophier. Alors, il faut savoir que l'atteinte du motoneurone peut parfois être associée à une perte de neurones dans les régions frontales et temporales du cerveau qui peuvent conduire au développement de troubles cognitifs et comportementaux d'intensité variable. Et dans la forme la plus sévère, cela conduit à ce qu'on appelle une démence frontotemporale, et on sait que 15% des patients atteints de SLA sont également atteints de démence frontotemporale. Elle est plutôt caractérisée par des modifications du comportement qui apparaissent au premier plan. Dans les autres cas, quand on teste de manière un peu systématique les patients sur le plan cognitif, on se rend compte qu'il y a à peu près la moitié des patients qui développent des troubles cognitifs d'intensité modérée qui peuvent impacter leur prise de décision, mais qui n'impactent pas leur autonomie dans la vie quotidienne. Alors, si on doit définir la maladie en termes de chiffres, la maladie peut toucher toutes les parties du monde. Il y a des variations, néanmoins, et on sait que la maladie est probablement moins incidente, par exemple, dans le sud-est asiatique qu'en Europe du Nord ou aux États-Unis. Il y a également des variabilités des taux incidents en fonction des origines ethniques des patients, et on sait que la population caucasienne est plus volontiers touchée par la pathologie que les populations d'origine hispanique ou les populations noires. Alors, si on considère les taux en France, on se base sur des travaux, des registres, et en particulier, nous, on a développé un registre de la pathologie. On sait que le taux incident moyen est proche de 2,5 à 3 pour 100 000 habitants, ce qui fait qu'en France, il y a à peu près 1600 à 1700 nouveaux cas de SLA. Le taux prévalent, c'est le nombre de cas présents à un instant T donné, et on considère qu'il y a entre 8 et 10 patients pour 100 000 habitants, ce qui représente en moyenne autour de 6 000 patients atteints de SLA en France. Alors, si on regarde en fonction des tranches d'âge, l'âge moyen de début de la maladie, c'est autour de 60 ans, mais le pic d'incidence, il est après 70 ans. Parce que dans cette tranche d'âge, il y a un peu moins de population et on voit que le pic est atteint après cette date. L'âge moyen, j'ai dit, il est proche de 60 ans, mais ça peut toucher toutes les tranches d'âge. Alors évidemment, c'est très rare chez les sujets de moins de 40 ans, mais on a des cas chez les sujets jeunes. Il y a même des cas de SLA juvénile qui ont été décrits. Et puis, il y a des formes chez les sujets âgés qui peuvent parfois poser des problèmes de diagnostic puisqu'il y a souvent des polypathologies associées. Si on regarde le sexe ratio, globalement, c'est une maladie qui est un petit peu plus fréquente chez l'homme que chez la femme, avec un sexe ratio de 1,5 pour 1.
Et professeur Courati, comment est-ce qu'elle survient, cette sclérose latérale amyotrophique? Quelle est sa physiopathologie?
Alors, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait et ce que les cliniciens ont décrit depuis très longtemps, c'est qu'on sait qu'on a des formes familiales et on considère qu'on a à peu près 10% de patients qui vont alléguer des antécédents familiaux de la même maladie dans la famille. Et donc 90% qui sont sporadiques. Alors, pour les formes familiales, il y a 4 gènes majeurs qui expliquent à peu près 70% des formes familiales. Il n'en reste pas moins que dans les formes sporadiques, donc de cause inconnue, on n'a pas réellement d'explication totalement claire. On pense qu'il y a probablement une interaction entre des facteurs de susceptibilité génétique, c'est-à-dire des facteurs qui favorisent le risque de développer la maladie, et l'exposition à des facteurs environnementaux. Alors, de façon simple, probablement que l'argument le plus fort pour un facteur environnemental vient des descriptions des cas de SLA dans l'île de Guam qui ont été décrites après la Seconde Guerre mondiale, et on avait incriminé dans ces cas-là, la consommation de chauves-souris qui elles-mêmes consommaient des graines de cicasse qui étaient contaminées par une neurotoxine. Et on a remarqué au cours du temps qu'en modifiant les habitudes de vie, eh bien, on a observé une diminution très drastique des cas incidents et des cas prévalents de cette maladie, faisant vraiment suspecter un facteur environnemental. Dans les facteurs environnementaux, il y en a plusieurs qui ont été incriminés. L'exposition à des traumatismes répétés, une activité physique de haut niveau, et les travaux italiens avaient suggéré que la pratique du football, et puis ça a été également confirmé au niveau du rugby, c'était des facteurs de risque. Il y a l'exposition à certains toxiques comme les pesticides, les insecticides. Et du coup, on évoque actuellement une interaction entre les gènes et des facteurs environnementaux. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable à l'échelle individuelle de dire bah, c'est ça qui a expliqué votre maladie. Les seuls cas où on peut vraiment l'expliquer de manière certaine, c'est les facteurs génétiques. Alors, dans les facteurs physiopathes, il y a plein de mécanismes qui sont impliqués. Il y a les processus d'excitotoxicité, il y a les processus d'inflammation chronique, il y a le fait qu'on sait que dans la maladie, il y a des agrégats de protéines, comme on peut voir dans la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas les mêmes protéines qui s'agrègent, c'est ce qu'on appelle la TDP43, et on sait que ça joue un rôle majeur. L'intérêt de connaître les formes génétiques, c'est que ça permet d'étudier les formes dites sporadiques et d'avoir des hypothèses de travail afin de développer des nouveaux médicaments.
Et d'un point de vue clinique, alors vous l'avez déjà un petit peu évoqué, professeur Couratier, mais quels sont les principaux symptômes rencontrés chez les patients touchés ?
Alors, de façon un peu schématique, dans 20 à 30% des cas, la maladie va débuter au niveau du tronc cérébral et on parle de forme à début bulbaire. Et les premières manifestations, c'est des difficultés pour articuler ou bien des difficultés pour déglutir. Et souvent, ces patients-là sont adressés aux confrères ORL parce qu'on pense qu'il y a une pathologie ORL qui peut expliquer ce dysfonctionnement. Dans les autres cas, la SLA va altérer les motoneurones périphériques localisés dans la moelle épinière. Et là, on parle des formes à début spinal. Et ça va se manifester du coup par une faiblesse ou une gêne au niveau d'un membre supérieur, d'un membre inférieur. Et ça va être caractérisé par des phénomènes de perte de force, de phénomènes de crampes musculaires associés à la présence de fasciculations. Et c'est l'examen clinique qui va permettre de faire suspecter la pathologie en mettant en évidence une atteinte combinée à la fois des motoneurones périphériques et du neurone moteur central. C'est-à-dire qu'on va avoir un déficit moteur amyotrophiant avec une conservation des réflexes, voire des réflexes exagérés. Et enfin, dans 5% des cas, on peut observer des formes à début respiratoire. C'est des formes qui se manifestent par des symptômes respiratoires et qui sont liées à la dénervation du diaphragme, qui est le principal muscle inspiratoire.
Et en termes d'évolution, quel est ensuite le profil d'évolution de la maladie ?
Alors, sur le plan évolutif, on sait que la SLA, c'est la plus fréquente des maladies du motoneurone chez l'adulte, alors que chez l'enfant, c'est les amyotrophies spinales. Chez les patients atteints de SLA, le pronostic est sévère, puisqu'on considère que l'espérance de vie après l'apparition des premiers symptômes, il est compris en moyenne entre 2 et 4 ans. Alors, il y a évidemment, les cliniciens ont cherché à savoir et à connaître les facteurs de bon et de mauvais pronostic. On sait que l'âge un rôle probablement important et plus on est âgé et plus le pronostic est sévère. Et puis, on sait que le siège de début de la maladie joue également un rôle et que les formes à début bulbaire ont un pronostic plus sévère que les formes à début spinal. Il n'en reste pas moins que quand les patients nous interrogent sur leur espérance de vie, il est extrêmement difficile de se prononcer. Alors, on utilise en pratique clinique des échelles fonctionnelles et on peut étudier au cours du suivi des patients la pente évolutive sur ces échelles qui permettent de façon un peu schématique de les mettre soit dans le groupe des déclineurs rapides, soit intermédiaires, soit lents. On considère qu'il y a environ 10% des patients qui vivent entre 5 et 10 ans, mais on sait aussi qu'il y a des patients qui ont des évolutions extrêmement sévères avec des durées d'évolution de moins d'un an. Le pronostic vital, il est engagé par l'atteinte respiratoire et on considère que dans plus de 3/4 des cas, les patients vont décéder d'une insuffisance respiratoire restrictive. Donc cet élément évidemment est surveillé de manière très répétée au cours du suivi. Il y a un deuxième facteur pronostique qui joue un rôle majeur et sur lequel on peut potentiellement agir, c'est l'état nutritionnel. Et on sait que la dégradation de l'état nutritionnel est un facteur péjoratif sur le plan pronostique. Donc en tout cas, en pratique, on ne fait pas évidemment de pronostic à l'échelle individuelle, mais on peut quand même orienter le patient sur son profil, à savoir est-ce qu'il a un profil plutôt classique ou un profil plutôt lent ou rapide.
Et pour conclure, professeur Couratier, en cas de signe évocateur, à qui adresser rapidement ces patients ?
Alors, à qui adresser ? C'est un vrai problème qui est débattu d'ailleurs à l'échelle européenne, mais également en Amérique du Nord. On sait que globalement, et malgré l'évolution des techniques, malgré le fait qu'il y ait des centres de référence, globalement, le délai diagnostic moyen, il est compris entre 9 et 12 mois. On essaye de réfléchir pour savoir comment on peut sensibiliser les professionnels pour que le diagnostic soit fait plus rapidement. En tous les cas, on propose comme élément majeur le fait que les patients qui présentent un déficit moteur évolutif avec une atrophie et qui évolue et associé à des fasciculations et à une conservation des réflexes doit conduire à une expertise neurologique la plus rapide possible pour pouvoir faire un EMG.
Eh bien, merci mille fois, professeur Couratier, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la sclérose latérale amyotrophique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.